Et maintenant, on va parler de mariage, parce qu'il y a une décision qui a été rendue par la Cour d'appel. Et c'est important, je dirais, pour deux raisons. D'abord, ça vient définir clairement quelles sont les dispositions, les pouvoirs de l'État quand il y a un mariage religieux. Il y a des gens qui disent « ben moi, je ne me vois pas vivre en couple si je ne suis pas marié devant l'Église ». C'est parfait. Mais en même temps, il y a des règles qui encadrent le mariage. C'est un premier éclairage. Puis le deuxième, ben, c'est encore une fois la démonstration qu'on a un besoin urgent d'une réforme du droit de la famille au Québec. J'en parle avec Maître Alain Roy, qui, vous le savez, de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et qui a été président du comité, justement, sur le droit de la famille. Maître Roy, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, la première question, ce citoyen-là qui dit « Moi, j'ai des convictions religieuses, je ne peux pas vivre en couple dans le péché, je veux me marier », mais le fait qu'il y ait des obligations légales qui entourent le mariage, c'est comme une entrave à ma liberté de religion. Et la Cour d'appel a dit non.
Exactement. Alors, monsieur a ses convictions religieuses, comme vous le mentionnez, et lui considérait qu'il n'avait pas les mêmes accès ou les mêmes possibilités que les non-croyants, parce qu'évidemment, un croyant doit se marier pour vivre sa conjugalité, autrement, ben, il est en contravention avec ses croyances religieuses. Et le mariage célébré par un ministre du culte vient avec des conséquences juridiques et ces conséquences, on ne peut pas les mettre de côté, on ne peut pas limiter au Québec le mariage à sa seule dimension religieuse. Et ça, la Cour d'appel le dit clairement. Vous vous souvenez du jugement de première instance qui avait entraîné un dérapage extraordinaire de la ministre Vallée à l'époque, qui faisait des nuances entre mariage religieux, union spirituelle. Non, il y a amalgame, le mariage religieux vient avec des conséquences civiles. Alors, pour monsieur, les non-croyants peuvent, eux, vivre leur conjugalité en mariage ou en union de fait, ce qui leur procure une liberté contractuelle, une possibilité d'organiser leurs règles, leurs rapports juridiques et financiers comme ils l'entendent. Il aurait voulu bénéficier de cette liberté, mais vu le mariage qui doit nécessairement encadrer sa relation, il n'a pas accès à cette liberté ou à ce libre choix. Et c'est ce qu'il dénonçait. La Cour d'appel vient donc dire non, ce n'est pas une atteinte à votre liberté de croyance, ce n'est pas une atteinte à votre droit à l'égalité.
Mais je me souviens, vous parlez de la dérive qui avait suivi le premier jugement, là, où on parlait d'union spirituelle. Puis on a vu, pas plus tard que quoi, la semaine dernière, un imam qui avait comme préparé un contrat de mariage et qui n'était pas légal, mais qui était une forme d'union spirituelle forcée, là, dans le cas d'une mineure. Mm-hmm. C'est ce genre de dérape-là qu'on veut éviter.
Absolument. On veut éviter cette dérape pour que le mariage soit toujours reconnu civilement. Mais il faut faire attention, il faut bien distinguer la reconnaissance civile d'un mariage des effets juridiques qui l'accompagnent. Et c'est un peu ça qui est en cause, les effets juridiques. Un mariage doit toujours donner accès à un acte d'état civil, donc doit toujours être reconnu par l'État. Il y a ce lien-là qui est absolument indissociable ou inaltérable. Mais une fois qu'on dit ça, la question est légitime, à savoir quelle est la liberté qu'on donne aux conjoints, aux époux, pour aménager leur relation? Parce que les couples sont très différents, vous savez, M. Arcan. Quand on se marie à 25 ans, on a un profil X, puis quand on se marie à 65 ans, on a un profil Y. Alors, la question de savoir si on doit encore maintenir des effets juridiques obligatoires à tous égards pour tout mariage, pour toute union, elle est légitime, elle se pose. Mais dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que monsieur présentait, lui, le libre choix, l'autonomie de la volonté dont jouissent les conjoints de fait comme un avantage auquel il n'avait pas accès. Et la Cour d'appel dit « Oh, attention, là, dans l'affaire Lola, même si la politique législative du Québec a été validée, il reste qu'il y a 5 juges sur 9 qui ont dit que le droit québécois était discriminatoire à l'encontre des conjoints de fait. On a sauvé le droit québécois in extremis par la décision, les motifs de la juge McLachlan, qui a considéré que oui, discrimination il y avait, mais justifiée dans une société libre et démocratique. Alors, c'était un message envoyé aux législateurs du Québec qui a constitué le comité consultatif. Mais après coup, vous savez, le rapport a été tabletté, il ne s'est rien fait. Ce que la Cour d'appel vient dire, c'est que le statu quo est totalement inacceptable et que si on ne fait rien, éventuellement, on pourrait avoir une autre affaire Lola. Et là, il n'est pas certain que ça penche en faveur de la politique du Québec. Il n'est pas certain qu'on en arrive à des conclusions identiques à celles de 2013. Il pourrait y avoir, justement, invalidation du droit québécois dans son état actuel.
En terminant, Maître Roy, juste un petit rappel. Le rapport du comité que vous avez présidé a été présenté quand?
juin 2015.
On est en septembre 2019, puis à date, Zippo.
Oui, mais heureusement, là, on a un nouveau gouvernement qui semble tout à fait déterminé à aller de l'avant. La ministre Lebel a tenu des consultations au printemps et elle a répété à la rentrée judiciaire qu'il y a un projet de loi sur la filiation qui allait être déposé cet automne ou en début d'année et qu'un projet sur la conjugalité allait suivre. Donc, il semble y avoir une volonté. Bien sûr, on jugera l'herbe à ses fruits, mais disons qu'on est loin du laxisme dont l'ancien gouvernement a fait preuve.
Merci beaucoup, Maître Roy.
Merci à vous.
Au revoir, Maître Alain Roy, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.